Polysécure, épisode spécial, je suis avec Gaëtan, comment vas-tu?
Ma foi, ça va très bien, et toi?
Très bien aussi. Cette fois-ci, je suis à Rennes avec toi, au STIC. C'est fascinant, dans la force civile Nordsec, on se voit au STIC. Tu as produit une analyse qui a émané d'un chercheur qui a regardé comment les LLM généraient les mots de passe.
Oui.
Et je vais te laisser partir avec la genèse de ta recherche et ce que tu as creusé après. On va converser là-dessus.
Oui, absolument. Tout part d'un article publié début 2026 par une entreprise qui s'appelle Irregular, qui est une entreprise israélienne, je crois, qui s'est, comme tu dis, intéressée à comment les LLM génèrent des mots de passe et quel genre de propriétés les mots de passe qui sortent d'un LLM ont. Et qui, bon, sans surprise, quand on connaît l'architecture et la manière de fonctionner d'un LLM a montré que la sortie du LLM pour la génération de mots de passe était complètement biaisée, avec des niveaux de biais variables selon les modèles, mais avec des résultats qui sont assez parfois assez effarants, qu'on a reproduit nous après. Et la question qu'on s'est posée, nous, c'est est-ce qu'on est capable de retrouver des mots de passe de LLM dans la nature, vraiment valider que des gens se servent de LLM pour générer des mots de passe, combien on en a, et à quel genre de système ça touche, comment ils arrivent, où est-ce qu'ils arrivent. Et c'est comme ça qu'on a démarré cette recherche.
Puis pour le contexte, c'est que vous disposez de cette information-là par le fonctionnement même du produit principal, du service principal que vous offrez. Là.
Oui, tout à fait. Alors, pour le rappel, du coup, je suis presque un habitué du podcast maintenant. Je suis security researcher chez The Guild Guardian, et donc un des principes fondateurs de l'entreprise, c'est de faire de la détection de secrets en source ouverte, historiquement sur GitHub. Et donc, on a accès à une énorme base de données de mots de passe et autres secrets. Et en particulier, on a toute cette catégorie de mots de passe qu'on appelle génériques ou secrets génériques, qui ne suivent pas de format particulier. Et c'est un peu cette base de secrets sur laquelle on a voulu se poser la question, est-ce qu'il y en a là-dedans qui sont des mots de passe générés par des LLM? Et en quelle proportion et quelle est un peu la trend, l'évolution de ce nombre-là.
Oui, et donc à partir de cette information-là, vous avez mis l'hypothèse justement de comment corroborer ça, les choses. Fait que je vais te laisser continuer parler de ta recherche.
Oui, du coup, l'idée qu'on a eue, c'est que, partant de l'article de Irregular qui montrait vraiment des biais qui étaient assez marqués, on s'est dit qu'on pouvait probablement reconstruire une structure de données qui est une vieille structure que beaucoup de gens connaissent, qui s'appelle les chaînes de Markov, qui a le bon goût de d'être très forte pour stocker des biais statistiques comme ça. Donc, si je peux peut-être faire une très rapide introduction sur les chaînes de Markov, grosso modo, c'est ce qui sous-tend, par exemple sur Android, la complétion de mots ou la prédiction du prochain mot quand on écrit son SMS. C'est vraiment une structure qui est une structure statistique qui va prendre un certain contexte, donc par exemple le mot que vous venez de taper, et qui va, en se basant sur un corpus sur lequel elle a été entraînée, essayer de vous prédire le prochain mot. C'est un peu, en fait, d'une certaine manière, l'ancêtre du LLM, sauf qu'il a été inventé il y a des dizaines d'années. Et donc, du coup, ce qu'on s'est dit qu'on allait faire, c'est qu'on a pris 40 modèles de LLM différents. On leur a demandé de générer des mots de passe par centaines. Et à partir de ce corpus de mots de passe, on a construit ces fameuses chaînes de Markov. Je ne vais pas rentrer dans les détails, on a construit plusieurs différents types de chaînes qui prennent en compte la position du caractère dans le mot, sans prise en compte du caractère dans le mot, avec plus ou moins de contexte, etc. Et de manière à pouvoir générer des mots de passe, et puis aussi en se basant sur la structure statistique interne de la chaîne de Markov, être capable de, quand on lui donne un mot de passe arbitraire, faire dire à la structure combien est-ce qu'elle est étonnée par le schéma, et donc à quel, entre guillemets, pourcentage de chance, pour simplifier, ce mot de passe a été généré par un LLM. Ça, c'est un peu l'histoire un peu technique de la chose.
Si je le reprends dans d'autres termes, ça évalue un peu l'entropie des mots de passe, au sens où il est plus ou moins aléatoire et donc plus ou moins conçu comme ça.
C'est à peu près l'idée. C'est un peu comme une mesure d'entropie, mais par rapport à une base qu'on aurait prédéfinie. Et donc, en l'occurrence, la base, on la calcule par rapport à un ensemble de mots de passe qu'on pré-génère. Et donc, nécessairement, plus on génère de mots de passe et plus on a une base importante, et plus le stockage du biais, entre guillemets, va être intéressant, et donc plus on aura de précision. Mais c'est un peu l'idée, on calcule la déviation de l'entropie par rapport à une base qu'on a précalculée. Donc le premier truc assez drôle, c'est que pour construire ces chaînes, on a demandé à, donc, comme je disais, 40 modèles de générer plusieurs centaines de mots de passe. Et donc on a pu réobserver les résultats d'irrégulars, les premiers, et se rendre compte que les biais étaient absolument déraisonnables. L'exemple vraiment typique, c'est à l'époque Opus 4.6. Quand on lui demande de générer un mot de passe, il ne les génère qu'avec 35% d'unicité. C'est-à-dire que dans 65% des cas, il génère le même mot de passe continuellement. Donc on est sur ce niveau de biais. On est vraiment sur un niveau de biais qui est absolument déraisonnable. Donc c'est vraiment le cas extrême. Opus, c'est vraiment quasiment le pire. À l'époque où on a fait cette recherche, le vrai pire, c'était un modèle de Mistral qui ne générait qu'un seul mot de passe. Il ne savait en générer qu'un. C'était assez fou. Il était très long, très complexe, mais il n'y en avait qu'un seul. Il générait toujours le même continuellement.
Mais c'est intéressant, sachant comment les modèles sont entraînés, comment ils génèrent les choses. Donc, si on prend l'exemple de Mistral, donc il fait juste comme il a mémorisé un mot de passe, puis lui, quand on lui pose la question, il fait juste ressortir le mot de passe qu'il a mémorisé dans son, son entraînement. Il ne va même pas jusqu'à essayer de régénérer d'autres choses. Lui, il fait juste comme ressortir littéralement le même. C'est fou quand même.
Absolument. Je suis pas nécessairement expert dans le fonctionnement des LLM ou l'architecture de ces choses-là. L'article d'Irregular était très intéressant dans son étude du modèle GPT, qui était le GPT-5 à l'époque, je crois, où on voyait vraiment que le modèle considérait les différentes parties du mot de passe comme des tokens. Donc le mot de passe en entier n'était pas un token, mais il le découpait. Donc ça explique une certaine variabilité dans la valeur du mot de passe, puisqu'il va en fait faire bouger les différents tokens indépendamment. Il se peut que le modèle de Mistral considère le mot de passe comme un seul token, et du coup, et ce résultat de piètre unicité. C'est vraiment les pires. Mais dans tous les modèles, on a toujours des biais. Donc même quand on n'est pas sur ce niveau de biais, donc quand on n'a pas quasiment un seul mot de passe craché à chaque fois, on a toujours des biais. Et un des biais qui est vraiment caractéristique et qu'on retrouve quasiment sur tous les modèles, c'est l'alternance des classes de caractères. C'est-à-dire, ils vont toujours faire une lettre minuscule, une lettre majuscule, un chiffre, un symbole, et puis tourner comme ça continuellement. Donc on a vraiment ces patterns qui se répètent continuellement. Et en fait, ces biais-là, ils sont vraiment super adaptés à être rangés dans une chaîne de Markov. Et donc, c'est de là que vient l'idée de construire des chaînes de Markov qui, au final, sont vraiment faites pour ça. C'est-à-dire être capable de stocker, dans le cas général, à quoi ressemble la structure d'une chaîne, quel est généralement le mot de passe qui va suivre le caractère dièse, par exemple. Et on se rend compte que, par exemple, sur Opus, eh ben, dans 90% des cas, après un dièse, on aura un 8. Et donc, on arrive à, comme ça, construire cette structure statistique avec laquelle on peut faire diverses choses. La première chose qu'on a voulu faire, c'est classifier notre base de mots de passe, et c'est ce qu'on a fait après.
C'est intéressant, juste ce volet-là, puis ça rappelle aussi que les modèles LLM, c'est des modèles prédictifs qui servent à prédire le prochain caractère. Fait que l'usage des chaînes, comme vous avez fait, est justement une façon de démontrer les biais associés aux données d'entraînement et ce qui s'est fait. Puis c'est aussi intéressant la parenthèse que tu as faite sur Mistral. Puis c'est aussi, il faut le savoir, sans moi non plus être un expert là-dedans, mais je sais qu'il y a beaucoup de pré-traitement qui est fait avant de toucher le modèle d'inférence. Et peut-être que le pré-traitement fait par Mistral est différent. Et comme celui d'Opus aussi, il y avait certains découpages ou certains éléments qui amènent à un biais plus ou moins grand. Dans le cas de Mistral, il est très fascinant, mais effectivement, ça part les choses comme ça.
Oui. C'est vraiment un truc à garder en tête que en fait, les LLM, ils sont entraînés sur un corpus de texte, et en fait leur objectif, c'est de plus ou moins répéter les choses qu'ils ont apprises. Et donc ce qui amène à un certain, entre guillemets, déterminisme dans la sortie, même si tout ça est extrêmement probabiliste, mais on sait qu'on va retomber plus ou moins sur le même type de réponse, et tant mieux, parce que c'est ce qu'on lui demande. Nécessairement, quand on génère un mot de passe, ce qu'on veut, c'est une forte entropie, et c'est exactement ce que les LLM ne font pas, en fait.
Non, puis si on le prend, puis on va faire la parenthèse là-dessus sur les LLM, puis on va aller dans l'analyse de vos données, c'est effectivement ça, parce que le langage est prévisible, et justement, c'est pour ça que l'humain utilise le langage de ce degré de prévisibilité-là, nous amène dans des structures définies, donc le LLM sert à reproduire ça, ce qui est effectivement, comme tu le mentionnes très bien, tout à fait contraire à la génération d'un bon mot de passe avec une entropie suffisante pour fonctionner. Là.
Ouais.
Puis, on va basculer sur ta recherche ou votre recherche que vous avez faite pour dans vos données.
Ouais. Alors, du coup, l'idée, comme je disais tout à l'heure, c'est qu'on a, chez GitGuardian, on a une grosse base de données de secrets de tout type, dont les secrets génériques qui ne suivent pas de schéma particulier, et donc dans le cas général on ne sait pas dire grand chose si ce n'est que ça ressemble à la valeur d'un secret, et donc on s'est dit, en prenant ces chaînes de Markov, on va pouvoir entre guillemets jeter tous ces mots de passe génériques, les faire classifier par la chaîne de Markov, obtenir un certain nombre de probabilités plus ou moins diverses et variées, et extraire une sous-partie de ces secrets qui vont dépasser un certain seuil de probabilité d'avoir été générés par des LLM. Et donc on a pris un échantillon entre le mois de janvier et le mois de mars, qui était à peu près le moment où on a lancé les calculs. Et c'est un échantillon qui contenait 3 millions, quelque chose comme ça, de mots de passe génériques. Et on a demandé à classifier tous ces mots de passe. Surprise ou pas surprise, je saurais pas dire. Moi personnellement, ça me surprend plus vraiment, mais on a trouvé un nombre assez significatif de mots de passe effectivement générés par des LLM. Donc sur la base des 3 millions de secrets, on en avait 28 000 qui ressortaient de la classification avec un seuil de reconnaissance assez haut qui laisse à penser qu'on a une assez certitude qui ont effectivement été générés par des LLM. En pratique, on le voit à l'œil, parce que typiquement, les mots de passe d'Opus qui sont uniques à uniquement 35%, ils ont des patterns qui sont excessivement reconnaissables à l'œil humain. Et en fait, on les retrouve. Et donc, on a ce nombre de 28 000, qui n'est pas si énorme que ça si on compare aux 3 millions. Mais ça montre quand même que l'usage est là et que les mots de passe ils sortent effectivement. Et on compte ici uniquement les mots de passe qui ont fini par fuiter sur GitHub. Donc, on est vraiment sur encore un sous-ensemble. Et si on trace un peu la courbe, on voit qu'on a à peu près 1500, 2000, 2500 nouveaux mots de passe générés par des LLM qui apparaissent sur GitHub à peu près toutes les semaines. Et ça, ça va constant.
Ouais, ben ce chiffre-là me passe le 28 000, et c'est tel que tel. Moi, ça me surprend parce que je navigue pas dans ces domaines-là comme vous autres, ce qui est votre cœur de métier. Mais 2 000, 2500 par semaine, de façon continue et de façon répétée, c'est un peu plus inquiétant à savoir comment les gens comprennent comment ça fonctionne et comment toute la base qu'on présente d'ingénierie qui sous-tend le développement est en train de s'effriter de façon très importante.
Ce qui est intéressant, c'est une fois qu'on a classifié ces mots de passe et qu'on a pu voir lesquels étaient potentiellement générés par des LLM, on a pu remonter le contexte et voir dans quel contexte ils étaient utilisés, quel type de fichier on les trouvait. On a vraiment deux cas d'usage typiques qu'on observe dans les données. Dans une partie des cas, on est à peu près sûr que le mot de passe a été généré par un LLM sur la demande d'un humain. Typiquement, c'est le cas quand on a, et on en a plusieurs, un nombre assez significatif, un fichier de configuration avec un mot de passe de connexion à une base de données, par exemple. Ou soit le LLM avait accès lui-même à la configuration de la base de données et accepte le mot de passe, ce qui est assez improbable, soit on a effectivement un humain qui a demandé la génération du mot de passe pour la définir sur sa base de données. Donc on a vraiment ce cas d'usage-là. Et puis on a d'autres cas d'usage où on a des indices assez flagrants que le LLM a lui-même, probablement par l'intermédiaire d'un agent de développement, décider de générer le mot de passe et la poser lui-même dans son code. Typiquement, ça va être tous les commits sur GitHub qui vont être co-authored by Claude ou dont le message de commit contient 34 smileys différents et fait 15 lignes de long. Et donc on a vraiment ces deux cas. On a vraiment des gens qui vont aller demander à leur LLM généralement un mot de passe parce qu'il m'en faut un pour mettre ici ou là. Et des LLM qui prennent la décision de générer eux-mêmes le mot de passe et de le mettre dans une configuration. Typiquement, ça peut être dans un fichier Terraform. C'est un exemple qui me revient en tête, ce que j'ai trouvé assez choquant. On a configuration Terraform qui définit la configuration d'une machine qui va être déployée par Terraform. Et dedans, on a le mot de passe d'administration qui est défini à la valeur d'un trucs générés par un LLM. Tout ça dans un commit co-authored by Claude. Donc on voit le genre de situation dans laquelle on se retrouve, c'est vraiment l'agent a pris la décision de générer le mot de passe, de le définir, de pousser ça sur GitHub et tout va bien.
Ouais, puis ça veut dire que l'humain est de moins en moins présent, ou en tout cas contrôle de moins en moins ce qui se fait avec l'intelligence artificielle. Donc ça fait passer des conséquences. C'est sûr que dans votre portée très spécifique, vous êtes dans du code qui est soumis sur GitHub public. Ceux qui le font dans des GitHub privés ou dans d'autres contextes sont même pas visibles du tout en plus. Fait que ça, donc c'est la pointe visible de l'iceberg essentiellement là, de ce que j'en comprends. Ouais, là.
Tout à fait. C'est pour ça qu'on est nécessairement sur un sous-ensemble. Enfin, c'est un sous-ensemble qui est facile à étudier parce que c'est de la donnée qui est publique et donc sur laquelle on fait beaucoup d'analyses parce que c'est généralement assez représentatif de ce qui se passe aussi en privé. Si ce n'est qu'en privé, on est généralement sur des échelles qui sont plus hautes. Mais ouais, c'est un échantillon qui est facile à analyser et qui donne... qui permet d'avoir un sentiment de ce qui se passe en termes de pratiques de développement, d'évolution des pratiques de développement. Et je trouve que ce cas-là est assez, assez tragique.
Et assez, oui, assez révélateur. J'aime bien tragique. Oui, effectivement, très tragique. Tu as fait au NordTech une courte présentation sur ça. Et j'aimerais ça que tu rates l'anecdote que là, sans vouloir shamer la personne elle-même, mais c'est quand même une démonstration que c'est partout comme problème. Là.
Ouais, effectivement, à NordTech, j'ai fait une présentation courte, comme tu dis, où bon, j'ai quelques slides, et sur un des slides, je mets une liste de mots de passe générés par Claude, où on voit clairement qu'on a vraiment une unicité qui est très très mauvaise et qu'on a des patterns qui sont très reconnaissables. Et à ce moment où je passe ce slide, quelqu'un qui sort de la salle assez vite, bon, ma foi, surprenant, mais rien d'extravagant, et après la présentation, en retournant dans l'espace. Centrale de la conférence, la personne vient me voir et me dit merci, ce matin j'ai demandé à mon LLM de générer un mot de passe pour mon compte en ligne sur je me rappelle plus du service, et en fait en voyant la slide je me suis rendu compte que c'était exactement le même que celui qui était affiché, et du coup je suis allé le changer très vite, et c'est assez fou parce qu'on est sur une conférence de sécurité avec des gens qui sont éduqués à la sécurité et on observe quand même ce genre de comportement, ce qui me laisse dubitatif. Enfin, je me pose vraiment la question comment est-ce qu'on en arrive là et où est-ce que, jusqu'où est-ce qu'on va aller avec ce genre de technologie.
Ouais, c'est très effarant d'où on se dirige, puis c'est d'autant plus important le partage que tu fais et de venir parler sur le podcast pour réveiller les gens qui auraient juste mis sous le pilote automatique, puis de plus se poser ce genre de questions-là et de déléguer complètement à la machine des décisions qui sont dans l'absolu, qui devraient être humaines en l'occurrence.
Ouais, ben, les mots me manquent pour être tout à fait honnête. J'aimerais croire qu'il y a besoin d'une prise de conscience. Honnêtement, je ne saurais pas exactement dire pourquoi on en arrive là et pourquoi les gens ont ce cas d'usage. J'ai envie de croire qu'il y a une partie d'incompréhension sur le fonctionnement et la nature même du LLM. Après, moi, ce qui me choque de mon point de vue, après ça vient probablement du fait qu'on travaille dans le secret tous les jours, c'est que le fait même de demander à son LLM de générer un mot de passe, en fait, ce que je dis dans l'article que j'ai écrit à propos de ça, c'est que en fait, le mot de passe, il fuite avant même que vous l'ayez, vous, devant les yeux, sur votre écran. C'est-à-dire qu'on va demander au LLM de générer le mot de passe. Le LLM, il est hébergé chez un hébergeur externe. On ne sait pas exactement s'il garde des traces, des logs, où va transiter le mot de passe quand il va être généré chez eux, quand il va revenir sur le réseau. Et puis une fois qu'il arrive sur votre agent de développement ou dans votre navigateur, quel genre de traces, quel genre d'artefacts on va retrouver, est-ce que le mot de passe ne va pas se retrouver dans un fichier de log parce que vous avez votre cloud qui a la liste des sessions pour pouvoir remonter dessus. Et en fait, le mot de passe n'est pas encore arrivé dans votre terminal et en fait, il est déjà leaké. Donc en fait, fondamentalement, ça me choque l'idée même de demander à un LLM, même si on suppose que le LLM est capable de générer un mot de passe de manière parfaite en utilisant, j'en sais rien, des outils dédiés. Le fait même d'avoir envie de faire ça, ça montre une incompréhension sur la gestion du secret. C'est vraiment une mauvaise pratique par définition.
Absolument, mais je te remercie énormément, très intéressant comme partage. J'espère qu'on va faire changer un peu la pratique des gens et qu'ils abandonnent cette approche-là. C'est un peu l'objectif du partage. Aussi. Puis bref, je te remercie énormément. Ça a été un plaisir de te revoir en aussi peu de temps. Fait, bref,
plaisir
de pouvoir avoir l'occasion de réenregistrer. Merci.
Merci.